Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié d'abord chez Fayard en 2017, puis repris en format pluriel. L'entreprise libérée rassemble et commente des textes d'Isaac Goetz consacrés à une transformation profonde du management. L'ouvrage appartient à l'essai de gestion et de leadership, mais son objet central n'est pas une nouvelle technique d'organisation. Il examine une philosophie selon laquelle les salariés doivent pouvoir prendre, de manière responsable, les initiatives qu'ils jugent utiles à l'entreprise. Goetz, professeur spécialiste du comportement organisationnel, est l'un des principaux théoriciens de l'entreprise libérée, interroge surtout la condition de possibilité de ce changement, la transformation du dirigeant en leader libérateur. À partir de fondements intellectuels, de retours d'expérience et de textes de praticiens, le livre critique les réflexes de subordination, de contrôle et de méfiance. Son ambition est d'aider le lecteur à se déprendre des vieux modèles hiérarchiques afin d'inventer, avec les équipes, une organisation adaptée à son histoire, à sa culture et à ses contraintes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'entreprise libérée est une philosophie d'action, non un modèle à reproduire. Le point le plus distinctif du livre est son refus de présenter l'entreprise libérée comme une recette organisationnelle. Une entreprise est dite libérée lorsque la majorité de ses salariés dispose réellement de la liberté et de la responsabilité d'entreprendre les actions qu'elle estime bénéfiques à l'activité. Cette définition décrit une finalité et non un organigramme, un ensemble obligatoire de rituels ou une méthode de déploiement. Ainsi, réduire le nombre de niveaux hiérarchiques, créer des équipes autonomes ou modifier les procédures ne suffit pas à libérer une entreprise. Ces dispositions peuvent être des conséquences possibles, mais elles ne constituent pas le principe lui-même. Goetz insiste sur la nécessité de construire une réponse singulière dans le contexte humain et culturel de chaque organisation, une démarche importée telle qu'elle risque donc de devenir une couche managériale supplémentaire, exactement contraire à l'intention initiale. Le livre invite à déplacer la question plutôt que de demander quelle pratique copier. Il faut se demander comment permettre aux personnes de décider et d'agir utilement sans attendre une autorisation permanente. Cette approche distingue l'entreprise libérée de nombreuses doctrines de management qui promettent une architecture universelle. Elle exige de juger la transformation à l'aune de l'autonomie effectivement vécue par les salariés et non à celle de l'apparence moderne de l'organisation. Deuxièmement, le leader libérateur commence par renoncer au contrôle et travailler sur son ego. L'ouvrage place le dirigeant au cœur de la transformation, non comme architecte omniscient d'un système, mais comme personne capable de modifier sa relation au pouvoir. Le leader libérateur ne délègue pas seulement certaines décisions tout en conservant le contrôle des sujets importants. Il accepte que les collaborateurs, plus proches des opérations, mobilisent leur jugement pour résoudre les problèmes et saisir les occasions. Cette posture suppose un travail sur l'ego, sur la peur de perdre son statut et sur l'habitude de confondre responsabilité avec surveillance. Goetz souligne ainsi que le leadership libérateur ne se réduit pas à une boîte à outils enseignables. Il implique du lâcher-prise, de la cohérence et une confiance qui se manifeste dans les actes. Le dirigeant demeure essentiel, mais son rôle se transforme, il porte une vision, protège les valeurs de liberté et de responsabilité et facilite les conditions de l'action plutôt que de prescrire les solutions. Cette exigence explique pourquoi le changement ne peut pas être confié uniquement à une direction des ressources humaines ou à un programme de conduite du changement. Si le sommet de l'organisation conserve des comportements de méfiance, les initiatives seront vite limitées. Le livre analyse donc la libération comme une discipline personnelle du leader autant que comme une évolution collective de l'entreprise. Troisièmement, respect, développement et autodirection forment le socle de la motivation intrinsèque. Goetz relie l'organisation libérée à des besoins humains fondamentaux au travail être respecté et reconnu, pouvoir se développer et disposer d'une autodirection réelle. L'enjeu n'est pas de promettre un bonheur abstrait au travail, mais de comprendre pourquoi des salariés traités en adultes peuvent mobiliser davantage de compétences, d'attention et d'initiative. Dans une structure dominée par les validations multiples, l'individu peut exécuter correctement une consigne sans se sentir responsable de l'amélioration du résultat. À l'inverse, la liberté d'action crée une obligation plus substantielle: observer une situation, évaluer ce qui est utile, coopérer et assumer les conséquences des choix. La reconnaissance est ici indissociable de la confiance, car demander l'avis d'un salarié sans lui accorder de pouvoir effectif revient à maintenir une participation superficielle. Le développement personnel ne signifie pas non plus une simple accumulation de formation. Il passe par la possibilité de grandir dans l'action, de résoudre des problèmes et d'élargir son champ de contribution. Le livre évite ainsi l'idée que le manager peut motiver autrui par des incitations. Il s'agit plutôt de créer un environnement où la motivation intrinsèque a des raisons de se développer. Cette logique relie l'épanouissement au travail à la performance sans les opposer mécaniquement. Quatrièmement, la responsabilité exige des compétences, une vision partagée et une culture de confiance. La liberté défendue dans le livre n'est ni l'absence de règles, ni l'abandon des salariés à eux-mêmes. Pour que l'initiative serve l'entreprise, les personnes doivent comprendre la raison d'être de l'action collective, posséder les compétences nécessaires et pouvoir accéder aux informations utiles. La responsabilisation devient alors une capacité construite plutôt qu'un slogan. Le dirigeant doit notamment créer des conditions d'égalité dans l'écoute, favoriser le développement des collaborateurs et partager une ambition suffisamment claire pour orienter les décisions dispersées. Une vision d'excellence ne remplace pas les choix quotidiens, mais elle offre un critère commun lorsque personne ne peut ou ne doit demander une validation immédiate. La culture joue également un rôle de régulation. Dans une organisation moins fondée sur le contrôle vertical, les comportements reposent davantage sur le respect mutuel. La coopération et la conscience des effets produits sur les collègues, les clients et l'entreprise. Cette perspective permet de comprendre pourquoi une libération sérieuse demande du temps. Il faut désapprendre les réflexes de permission chez les salariés comme les réflexes d'intervention chez les managers. Le livre ne présente donc pas l'autonomie comme une injonction individuelle. Elle dépend d'un environnement organisationnel où l'apprentissage, la circulation de l'information et la confiance rendent possible une décision responsable. En dernier lieu, la transformation se co-construit lentement et ses limites interdisent les promesses faciles. L'ouvrage se distingue aussi par sa prudence face aux effets d'annonce entourant l'entreprise libérée. Gates rappelle qu'il n'existe ni parcours standard ni résultat automatique. La libération demande plusieurs années car elle touche les habitudes, les rapports de pouvoir et l'identité même de l'organisation. Elle requiert une implication durable du dirigeant, mais également la participation active des salariés et, selon les situations, l'adhésion des actionnaires. Les exemples d'organisations ayant donné davantage de latitude à leurs équipes sont utiles comme source d'inspiration, non comme preuve qu'une même formule fonctionnerait partout. Le livre conduit ainsi à examiner les conditions concrètes, taille des unités, proximité entre les personnes, maturité des compétences, qualité des relations et capacité à faire vivre une culture commune. La proximité peut notamment faciliter l'identification des interlocuteurs et la résolution rapide des problèmes. Alors que les grands ensembles doivent souvent penser la transformation à l'échelle d'unités opérationnelles. Cette attention aux limites protège le concept contre une interprétation naïve, selon laquelle supprimer les chefs suffirait à améliorer l'entreprise. La question décisive reste la réalité de la liberté responsable et non l'étiquette affichée. En privilégiant les textes commentés et les expériences diverses, Gates encourage le lecteur à exercer son discernement et à concevoir une trajectoire adaptée plutôt qu'à imiter une entreprise admirée. En conclusion, l'entreprise libérée s'adresse en priorité aux dirigeants, managers, responsables des ressources humaines et acteurs de la transformation qui veulent interroger les fondements de l'autorité dans leur organisation. Il intéressera également les étudiants et chercheurs en management, ainsi que les salariés désireux de comprendre les débats autour de l'autonomie, de la confiance et de la responsabilité. Son bénéfice pratique n'est pas de fournir un plan de déploiement prêt à l'emploi. Il aide plutôt le lecteur à diagnostiquer les réflexes de contrôle qui entravent l'initiative, à clarifier les conditions d'une autonomie réelle et à mesurer le travail personnel exigé des personnes en position de pouvoir. Son apport intellectuel tient à une distinction essentielle. L'entreprise libérée est une philosophie incarnée dans un contexte, non une forme organisationnelle exportable. Cette position le différencie des guides de management qui alignent outils, étapes et modèles supposés universels. La sélection de textes commentés donne par ailleurs au livre une dimension de dossier de réflexion. Elle met en relation fondements théoriques, arguments critiques et expériences de terrain sans effacer leur diversité. Le lecteur n'y trouvera donc pas la promesse simpliste d'une organisation sans contraintes. Il y trouvera une analyse exigeante de ce que signifie faire confiance à l'intelligence des salariés, tout en construisant une vision, des compétences et une culture capable de rendre cette confiance opérationnelle. C'est ce refus des recettes faciles qui fait la valeur durable de l'ouvrage. Si vous souhaitez soutenir Isaac Gates, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.